et des Alpes. Et puis sur l'ouest, on va retrouver un ciel de traîne entre nuages, éclaircies et quelques gouttes entre la Bretagne et l'Aquitaine. Tout ça, et la Méditerranée, ça reste sec hein, toute la journée. Tout ça sous une ambiance un peu moins chaude. Les températures sont en baisse, mais ça reste agréable. De 18 à Biarritz à 27 à Grenoble et Nancy, 23 à Toulouse, 24 à Nîmes, 25 à Dijon, 26 à Paris.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences en France et en Europe.
Bon réveil, bonne route à l'écoute d'RMC, il est 7h.
RMC, la matinale week-end.
Il est là pour vous informer. Clément Gouitz, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Manifestation ultra-droite autorisée en plein Paris. Plus de 600 militants cagoulés avec des drapeaux nazis ont défilé hier sous le regard des passants sidérés. La Suisse déjoue les pronostics au concours de l'Eurovision. Et c'est l'heure des adieux pour Kylian Mbappé. L'attaquant parisien va fouler pour la dernière fois le Parc des Princes ce soir.
Et puis jusqu'à 2,40€ le litre d'essence dans les stations d'autoroute. Faut-il plafonner les prix? C'est ce que propose 40 millions d'automobilistes. À vous de nous dire, le 32-16 est ouvert, le débat c'est à 7h10.
De nombreux Parisiens sidérés, choqués hier par la manifestation d'ultra-droite.
Ce rassemblement avait été interdit dans un premier temps avant d'être finalement autorisé par le tribunal administratif. Le comité du 9 mai, ce collectif d'extrême droite, a bien pu manifester dans Paris hier. Plus de 600 manifestants néo-fascistes ont défilé en plein cœur de la capitale sous les yeux abasourdis des Parisiens. Reportage de Johanna Chabas.
À visage couvert, les manifestants sont majoritairement des hommes. Vêtus de noir, ils marchent en file indienne, en rang, par quatre, sur leur drapeau, des symboles nazis, et tous crient le même slogan. Europe, jeunesse, révolution, un chant inspiré d'un mouvement néo-fasciste italien. Entre deux slogans, les manifestants défilent en silence. Seul le bruit des pas, au rythme quasi militaire, se font entendre. Certains passants les prennent à partie.
C'est horrible ! C'est personne qui dit rien ! C'est pas normal ça ! Ouais. Une marche de sale fasciste et raciste de merde !
Mais la plupart des Parisiens restent médusés et inquiets.
Ça c'est pas bon. Ça c'est vraiment dangereux pour la société en général.
C'est assez effrayant de voir ça, de dire qu'il y a autant de personnes en fait. Enfin, quand on entend résonner dans la rue, c'est quand même assez impressionnant.
Je trouve que c'est vraiment une aberration, quoi. Ça propage la haine, ça peut tuer. Enfin, pour moi, c'est des fascistes. Enfin, non, on n'a pas le droit, quoi. C'est plus du tout la liberté d'expression, là.
En guise de réponse, les manifestants applaudissent lorsqu'ils sont pris à partie. Impossible de leur parler. Face aux journalistes, les militants se cachent derrière des gardes du corps et des grands parapluies noirs.
Un reportage de Johanna Chabas. La rêve partie clandestine en Maine-et-Loire se poursuit. 10 000 fêtards venus de toute la France sont rassemblés depuis mercredi dans un village de Parnay, près de Saumur. Ils se sont installés sur un terrain sans l'accord du propriétaire. Aucun incident n'a été recensé pour le moment. Plus de 95 personnes ont été prises en charge par les secours. Cette rêve partie doit durer jusqu'à ce soir. Le congé de naissance au cœur des débats cette semaine. Une concertation sera lancée ce mercredi avec les syndicats, le patronat et les associations, annonce la ministre chargée des familles, Sarah El Haïry, dans la tribune de dimanche. Emmanuel Macron a dévoilé cette semaine les grandes lignes. 3 mois pour les mères, 3 mois pour les pères, cumulables durant la première année de l'enfant et indemnisé à hauteur de 50% du salaire. Ce congé doit entrer en vigueur l'année prochaine. Patience, il en faudra sur les routes aujourd'hui pour cette fin du week-end prolongé de l'ascension. Sera noir sur le quart nord-ouest du pays, rouge sur le reste du pays dans le sens des retours. Il est conseillé de rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant midi.
RMC 7h03, place à l'Eurovision. La finale s'est déroulée hier soir à Malmö en Suède.
Et la Suisse a remporté à la surprise générale ce 68e concours avec son titre The Code.
Le gagnant, le champion du concours de chant de l'Eurovision 2024 est...
It's Switzerland!
La Suisse!
Le chanteur de 24 ans, Nemo, devient le premier artiste non-binaire à être sacré dans cette compétition. Il devance la Croatie et l'Ukraine. La France termine quatrième avec Slimane et sa chanson Mon Amour. Une édition, rappelons-le, marquée par des tensions, des manifestations pro-palestiniennes dans les rues de Malmö, des huées lors du décompte des points de la chanteuse israélienne. Justement, elle est arrivée en cinquième position.
La tempête solaire continue de faire son show.
Ouais, des aurores boréales ont encore illuminé le ciel en France cette nuit. Un phénomène très rare dans l'Hexagone. Cela faisait 20 ans que l'on n'avait pas eu une telle ampleur. Si vous avez raté le spectacle, séance de rattrapage cette nuit, voici les conseils de Ryan Alzen, photographe naturaliste.
Le meilleur conseil, c'est de regarder le ciel vers le nord à la tombée de la nuit, à peu près une heure après le coucher du soleil. et jusqu'à à peu près minuit, ce serait vraiment le meilleur moment pour avoir une chance. Mais malheureusement, on peut pas prévoir ça à 100%. Il vaut mieux s'éloigner des villes, il vaut mieux éliminer la pollution lumineuse. Donc si vous êtes à la campagne, si vous êtes au bord de la mer, regardez l'horizon nord, là où il n'y a pas de pollution lumineuse, c'est votre meilleure chance.
Et une invention au service des personnes malvoyantes remporte le concours Lépine. Il s'agit de lunettes équipées d'une caméra et connectées à une ceinture. Cette invention a été développée par Arta France. Les précisions de Louis de Véron, créateur de cette paire de lunettes.
C'est une grande joie et c'est un booster de motivation là. Il y a beaucoup de sens dans ce projet. En fait, c'est un clips de lunettes sur les branches de lunettes de la personne malvoyante ou non-voyante. Ce clips filme l'environnement, donc il va filmer le poteau, il va filmer la poubelle dans la rue, il va filmer les passants. Et cette image-là est renvoyée directement dans une ceinture lombaire. Et donc l'image, le poteau, va être dessinée dans le bas du dos à l'aide de petites pressions. Et après, le cerveau est capable de transformer cette image dans une image visuelle.
Et le deuxième prix du concours Lépinette est attribué à l'entreprise Ilia et sa douche cyclique. Elle permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie jusqu'à 70% grâce au recyclage de l'eau.
7h06, la Ligue 1 rechausse ses crampons aujourd'hui, site dès la 33e journée.
Cette rencontre au programme, OM-Lorient, le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz. Le PSG, lui, reçoit Toulouse. Sera donc le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes Arthur Perrault.
Oui, c'est la fin d'une aventure qui aura duré 7 ans. Kylian Mbappé au PSG, c'est 255 réalisations en 306 matchs. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club. L'entraîneur Luis Enrique salue le parcours du numéro 7 parisien.
Tout ce que je peux dire, c'est du bien sur Kylian Mbappé. Je comprends sa décision. Il a passé 7 ans ici. C'est une légende du club.
Le technicien espagnol a aussi été interrogé sur sa relation avec l'attaquant des Bleus.
On a souvent voulu nous opposer, même si Kylian a démenti publiquement. Toutes mes décisions ont été prises pour le bien de l'équipe.
Avec 6 titre de champion de France, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 3 Trophées des Champions. Mbappé a été un artisan majeur des succès parisiens ces dernières années. Mais Luis Enrique l'assure, la vie sans Kylian Mbappé ne sera pas un problème.
Cela ne change rien pour nous. Il y a encore un titre à aller chercher, c'est notre objectif. Je suis convaincu que peu importe les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine.
Kylian Mbappé aura presque tout connu dans la capitale, arrivé avec le statut de futur génie du football. Il a fini comme patron de l'équipe au centre du projet. Mais il part avec un seul regret, ne pas avoir offert à Paris sa première Coupe d'Europe.
Et après Mbappé, quelle heure ? Navas quitte le PSG, le gardien de but en fin de contrat l'a annoncé hier soir sur ses réseaux sociaux. La direction ne souhaite pas le conserver. Il était arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid. Autre rencontre ce soir à 21h, Lille-Nantes, l'entraîneur du LOSC Paolo Fonseca est la priorité de l'OM pour la saison prochaine. Le club phocéen lui proposera un contrat de 3 ans et de doubler son salaire. Il faut dire que son jeu proposé séduit et les joueurs y adhèrent. Jean Baumel.
Passé par l'AS Rome et par le club ukrainien du Shakhtar Donetsk, Paolo Fonseca est en train de confirmer avec Lille qu'il fait partie des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Pour le capitaine du LOSC Benjamin André, c'est une chance d'être coaché par le Portugais.
Il a amené beaucoup d'idées nouvelles, de fraîcheur. Je vois peu d'équipes jouer comme nous, surtout au début. Maintenant, un peu plus. Je pense qu'il a initié certaines choses et certains principes. Même à mon âge, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Quoi de mieux qu'un entraîneur qui nous dit de prendre des risques.
En fin de contrat en juin prochain, Paolo Fonseca intéresse fortement l'Olympique de Marseille qui lui proposerait un contrat à longue durée de 3 ans. Un projet qui intéresserait le coach portugais, même s'il dément pour l'instant.
C'est pas vrai. Je n'ai pas d'accord avec un autre club. Je suis totalement concentré sur les 2 derniers matchs.
Des rumeurs qui ne perturbent pas les joueurs, selon Benjamin André.
Puis il se passera ce qui se passera plus tard. Mais LOSC a cet objectif-là de la Ligue des Champions.
Déjà qualifié pour la Ligue Europa, Paulo Fonseca veut bien finir avec le LOSC en décrochant une place en Ligue des Champions.
Coup d'envoi de ces 7 rencontres à 21h et c'est bien sûr à suivre sur RMC.
Merci beaucoup Clément Gouitz et bienvenue à Foued, à Marc, à Émilie, à Aurélien qui nous ont tous rejoints sur l'appli RMC ce matin, en plus de tous les autres qui sont là depuis très tôt, 6h30. L'appli RMC, l'onglet Direct Studio, le groupe Facebook Les Matins RMC et puis le 3216 bien sûr pour nous rejoindre et passer à l'antenne. Pierre est avec nous.
Bonjour Pierre.
Bonjour toute l'équipe, comment ça va ?
Ça va très bien, notre poissonnier des Hauts-de-Seine, Pierre, au marché déjà ce matin ?
Eh oui, c'est parti.
Il y a du monde ?
Pour l'instant, non, il n'y a personne.
Le week-end de l'Ascension, là, Paris s'est vidé, non ?
Oh oui, complètement, là niveau, depuis mercredi.
Vous le ressentez sur les ventes ?
Ah oui,
moins
complètement.
Moins de clients, ouais.
Ah, largement, on a, allez, sans vous mentir à peu près, ça, 60% on a fait...
Ah oui, quand même.
Ah ouais, c'est énorme. On n'a jamais vu autant de monde partir.
C'est les marchés du littoral qui sont contents, en revanche. Hein, quand les beaux jours arrivent et que les grands week-ends arrivent, c'est le début de saison pour eux. Hein.
Et il en faut pour tout le monde.
Eh bien, bien sûr. Vous n'avez pas profité de ce long week-end pour partir aussi un peu?
Ah non, on travaille tous les jours fériés, week-end, c'est ça les artisans.
Eh oui, vous avez raison, ce sont les professions essentielles, comme on dit depuis maintenant 4-5 ans, Pierre. Et puis c'est vrai que partir en week-end, ça revient de plus en plus cher maintenant. On va parler du prix des carburants qui n'arrête pas d'augmenter.
Ah oui, l'avantage que mon patron est là, il a 3 camions, et c'est diesel. Le diesel, il a baissé au contraire.
C'est vrai que depuis ces dernières semaines, ça baisse un tout petit peu sur le gasoil. En revanche, c'est le samplon, notamment, qui prend très très cher.
Ben ça nous aide beaucoup. C'est un petit souffle quand même. Ça fait beaucoup au niveau essence. Tout a augmenté, en plus l'électricité, tout.
On est bien d'accord, Pierre. Alors c'est pour ça que cette proposition qui peut paraître utopique pour certains de 40 millions d'automobilistes de plafonner le prix à 1,50€, en tout cas permettrait de pouvoir avoir de la visibilité sur la trésorerie des entreprises. Ne serait-ce que ça, c'est un argument, et c'est pour ça qu'on en discute ce matin. Bon courage, Pierre.
Merci, pareil, un très très bon week-end à vous.
Et merci d'être passé par le 32-16 ce matin. La matinale week-end se poursuit 7h11.
À suivre dans la matinale week-end.
On va parler du camping aussi, parce que paraît-il, il faut sauver le vrai camping. Un collectif s'inquiète de la disparition, vous savez, des emplacements nus pour planter sa tente, au profit des emplacements pour mobile home. Le président du syndicat des campings, Nicolas Daillot, leur répond tout à l'heure à 7h40 sur RMC.
À 7h20, c'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. On part faire un footing bien chaussé.
Des chaussures avec des super pouvoirs. Vous allez pouvoir marcher deux fois plus vite qu'aujourd'hui, sans vous fatiguer.
Dites-moi, tout un programme. En attendant, notre question du jour, donc, est-ce qu'il faut plafonner le prix des carburants? C'est à vous de nous dire dans 2 minutes.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet.
RMC, les grandes gueules du sport.
On se retrouve tout à l'heure de 9h30 à midi pour des grandes gueules du sport exceptionnelles en direct du Mans pour le Grand Prix MotoGP avec les GG Jérôme Pinot, Sarah Pitkowski, Marie Martineau et Christophe Cessieux. Au programme, le soufflet est-il retombé autour de la moto? La DER évidemment de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Est-ce que ça peut mal se passer? Et puis, Raphaël Nadal ne veut plus avoir peur de se blesser, peur de la rechute. Est-ce impossible? À tout à l'heure, 9h30, en direct du Mans, pour les Grandes Gueules du Sport sur RMC.
Les Grandes Gueules du Sport, tous les week-ends, 9h30 midi sur RMC.
Vibrez Moto, rejoignez la Fédération Française de Motocyclisme. Partagez des moments exceptionnels, vivez des sensations incomparables et offrez-vous un vent de liberté sur nos circuits.
Salut, c'est Benoît Boutron sur RMC. Est-ce que ça vous plairait d'assister à un moment d'histoire? Venez au stade Charletti le 8 juin, RMC lance le record du monde de course. 350 km à courir en 24 heures par 144 coureurs. Assistez tout le week-end aux émissions d'RMC, rencontrez les 24 champions stars du running qui nous aident dans cette tentative. Beaucoup de surprises, animations et de nombreux cadeaux à gagner. Et si vous souhaitez être acteur du record du monde RMC, contactez-nous par mail à l'adresse record@rmc.fr.
Entrée gratuite pendant toute la durée de la course. Toutes les infos sont à retrouver dans le podcast RMC Running.
RMC 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Il est 7h13.
RMC.
À vous de nous dire.
Bonjour Kevin Gasser.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
Notre question d'actualité, tous les matins au 32-16, vous pouvez voter sur notre compte Twitter. En ce jour de retour du pont de l'Ascension sur les routes, le prix des carburants s'envole sur les grands axes. Alors est-ce qu'il faut plafonner le prix des carburants sur l'autoroute?
Oui, on vous pose cette question en ce dimanche classé rouge par Bison Futé dans le pays et même noir sur le quart nord-ouest. Et si vous avez pris la route ce week-end, vous avez certainement vu les prix mirobolants affichés par les stations-service le long des autoroutes. Ils dépassent souvent les 2 euros au litre, même pour le gasoil. Nos confrères du journal Le Parisien ont même répertorié les stations essence les plus chères de France sur les autoroutes. Il y en a deux sur l'A43 dans le Rhône, à hauteur de Saint-Priest, qui propose le samplon 95 à plus de 2,40€ le litre.
C'est dingue.
Et 2,30€ le litre de gasoil. Entre Paris et Lille, les prix varient plus entre 2€ et 2,10€. Mais ça fait quand même pour un plein de 50 litres plus de 100€.
Oui, c'est énorme. Alors, Kevin, rien à voir avec les prix qu'on peut trouver dans les stations. l'inflation des hypermarchés.
Oui, où les carburants ne dépassent quasiment jamais la barre des 2 euros. C'est le bon plan, évidemment, pour économiser quelques euros, mais de retour de vacances, parfois dans des zones que l'on ne connaît pas, sur la réserve surtout, on n'a pas le choix que de s'arrêter sur l'autoroute. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'essence, l'alimentation, tout est globalement plus cher sur autoroute qu'en ville. La loi de l'offre et la demande, mais aussi parce que ces stations sont souvent ouvertes 24 heures sur 24 et ont donc des frais supplémentaires. Un salarié à toute heure, par exemple, et il y a enfin une redevance spécifique que doivent payer les stations essence d'autoroute, d'où le prix du carburant. Mais cette flambée des prix est aussi liée à l'augmentation du prix du baril. En un an, selon l'association 40 millions d'automobilistes, le litre de sans-plomb 95 aurait augmenté de 32 centimes et celui de gasoil de 21 centimes, toutes stations confondues cette fois. Alors 40 millions d'automobilistes a lancé une pétition il y a un mois pour que le prix du litre ne dépasse pas les 1,50€.
1,50€. Est-ce que c'est pas un peu ambitieux ?
Oui, c'est alléchant, surtout pour ceux qui paieront leur plein aujourd'hui plus de 2,30€ le litre. En fait, l'association souhaite que le gouvernement réforme sa fiscalité sur les carburants. Actuellement, c'est 60% du prix payé à la pompe par l'automobiliste qui va directement dans les caisses de l'État. Une manne financière non négligeable. Et on imagine mal le gouvernement, dans le contexte économique actuel, réduire ses taxes. Chacun prend sa part, disait encore en septembre dernier l'ancienne Premier ministre Elisabeth Borne.
Alors à vous de nous dire, est-ce qu'il faut plafonner le prix du carburant ?
Oui, vous avez répondu oui à notre consultation sur Twitter à près de 83%.
Eh bien, vous continuez de nous dire ce que vous en pensez ce matin. Rejoignez-nous, le débat est ouvert. J'étais en train de penser à 1,50€, c'est pas anodin non plus de la part de 40 millions d'automobilistes parce que c'était le prix à l'époque des gilets jaunes, 1,50€. Ça avait déclenché 1,50€ les gilets jaunes. Là, on est quasiment à 2€. Tiens, commençons par Julien qui nous attend au 32-16 à Montpellier.
Bonjour Julien.
Oui. Bonjour à tous.
Julien, vous ouais. dites plafonner non. Pourquoi vous dites non ?
Non.
Parce que vous êtes un des seuls à dire non ce matin.
Non, moi je sais pas. 40 millions de populistes, il faut qu'ils arrêtent avec leurs propositions. C'est pas nouveau. Moi, déjà gamin, j'entendais mes parents et même mes grands-parents dire quand on partait en vacances que le carburant était plus cher sur l'autoroute. Mmh. C'est pas nouveau. Et puis alors on veut réguler les prix. Il faudrait que l'État baisse les prix sur l'alimentation, sur l'énergie, sur tout ça. S'ils veulent un système à la communiste, ces gens, qui est très bien pour eux, grand bien leur fasse, mais qu'ils aillent le faire ailleurs, quoi.
Mais Julien,
moi, je suis désolé, on a un État qui est endetté, on ne peut plus se permettre de... Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas, moi.
Vous travaillez dans quoi ? Vous faites
moi,
le plein régulièrement ?
Moi, j'étais cadre commercial avant.
D'accord,
donc là, je suis en reconversion pour devenir infirmier, mais avant, j'étais cadre commercial avant. Et j'ai écumé
donc souvent sur la route.
Du Languedoc aussi, donc, ouais. Ouais, voilà.
Mais Julien, le problème avec ces taxes qui ont été mises en place, en plus progressivement, hein, la TICPE, la TVA sur la TICPE, la TVA normale, c'est qu'à la fin, vous voyez bien que ça fait Kouglof. On peut aussi peut-être trier un peu dans ces taxes sur le carburant, Julien.
Oui, tout le monde veut baisser surtout, Mathieu. Les taxes, ça finance aussi des infrastructures, ça finance plein de choses.
Donc
moi, je veux bien, on enlève toutes les taxes. Par contre, on n'a pas se plaindre que le réseau secondaire, déjà qu'il est déjà bien pourri, ne soit plus du tout entretenu. Mmh. Enfin, il y a plein de choses comme ça.
Vous avez raison de rappeler que ces taxes servent en priorité à l'entretien des routes nationales, hein, puisque ce sont les routes de l'État. Donc, priorité aux caisses de l'État et à ces 10 milliards qu'il faut trouver l'année prochaine, aux 25 milliards qu'il faudra trouver l'année suivante. Ce n'est pas en baissant des taxes qu'on va y arriver.
Moi, je ne comprends pas qu'on laisse je ne sais pas, il faut les remettre en question.
Mais vous êtes prêt à payer votre plein jusqu'à combien ?
Payer moins cher, tout moins cher.
Mais vous êtes prêt. Non, mais Julien, parce qu'il y a quand même aussi une question de pouvoir d'achat derrière tout ça. Vous avez les moyens.
Non, mais c'est pas, je suis pas multimillionnaire. Moi, j'ai grandi à Palaval, donc c'est une petite station balnéaire. Je peux vous assurer que le moindre rayon de soleil, le moindre pont de ferry ou même pendant les vacances, c'est plein. Mmh. Et à Palaval, on n'accueille pas les milliardaires ou les millionnaires de la Côte d'Azur. Ouais. C'est la France populaire, hein.
Donc en gros, si c'est trop cher,
ils ont le prix du carburant. Hein.
Les gens même modestes n'ont qu'à faire moins de week-ends.
Voilà, c'est des choix à faire dans la vie.
Non, mais c'est très clair. Erwan nous rejoint depuis le Morbihan. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Bon, vous n'êtes pas d'accord avec Julien ?
Non, pas du tout.
Expliquez-nous.
Pour moi, il faut bloquer les taxes, comme dirait une grande gueule de chez vous, Mehdi Ghezard, qui dit en fait, les taxes ne servent à rien. En fait, c'est juste pour faire du profit pour l'État. On n'en voit pas, en fait, débouché. Parce que oui, non, refaire les routes, non, moi j'en parle avec mon maire, c'est lui qui paye et c'est pas l'État qui leur donne de l'argent.
La deuxième chose, c'est surtout que l'État s'empiffre, voilà, avec ses taxes. Plus ça augmente, plus l'État engrange des bénéfices. Et on ne sait pas où ça va. Parce que moi, j'aimerais bien que ce soit très clair.
Julien vient de le rappeler. C'est vrai que ça ne va pas pour l'entretien des routes de votre commune. Là, c'est à charge de la commune. Les départementales, c'est à charge des départements.
Ce que je voulais dire, c'est vraiment, voilà, c'est un effet culbuto, en fait. C'est, moi, je vois dans mon entreprise, les taxes sur l'essence, plus ça va, moins les commerciaux, plus ils payent, moins on va leur donner des primes où ils roulent moins, donc ils se déplacent moins.
Vous bossez dans quel secteur, Erwan? Vous avez besoin de votre voiture pour aller bosser?
Alors moi, je suis responsable d'une agence de bâtiments, mais par contre, mes commerciaux, en fait, plus ça va, plus c'est compliqué parce que ça coûte de plus en plus cher. Donc on est obligé d'être restrictif au niveau des déplacements.
Mmh. Vous faites combien de kilomètres par jour?
Alors moi, personnellement, moi je suis pas trop à plaindre. Je fais 50 kilomètres aller-retour. Mais bon, c'est déjà un budget quand même qui m'a pris. En fait, aussi, c'est une chose que j'ai dit à Margot hier. Quand on dépense de l'argent comme ça, parce que moi, ça fait à peu près 100 euros de plus par mois.
Oui.
C'est pas de l'argent que je remets dans l'économie. Mmh. La vraie économie, je veux dire, l'économie où on va dépenser chez son boulanger, chez son boucher.
C'est de l'argent en moins pour votre pouvoir d'achat.
Effectivement, voilà. Erwan, vous avez raison de le souligner. Et l'autre chose qui m'interpelle aussi, parce que vous êtes le deuxième, il y a eu Pierre là, il y a une dizaine de minutes, c'est que pour les entreprises qui ont des flottes, que ce soit l'artisan poissonnier qui a 2-3 camions, ou vous, Erwan, où il y a des commerciaux, quel que soit le prix, l'avantage de plafonner, même si c'est au-delà d'1,50€, imaginons on plafonne à 1,80€, même 1,90€, au moins il y a une visibilité pour la trésorerie de l'entreprise. C'est intéressant dans le débat et on va le poursuivre. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, sera avec nous tout à l'heure à 8h10 et vous poursuivez vos appels au 32-16. Merci beaucoup Erwan, merci Julien. Bon week-end à vous. Il est 7h21.
RMC, les grandes gueules.
Demain 9h, on redémarre la semaine avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. 3 GG seront là pour discuter, pour débattre avec vous au 32-16. L'avocat Charles Consigny, la coach de vie Joël Dagosséry et Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie.
RMC les grandes gueules, tous les jours 9h30.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Alors Chloé, ce nouveau travail ?
Génial Cerise, mais j'ai beaucoup plus de trajets maintenant et mon fils est obligé de rentrer seul de l'école. Ça m'inquiète.
Grâce au système de télésurveillance Groupama, vous recevez une notification sur votre smartphone qui vous prévient dès son retour à la maison.
Ça c'est rassurant Cerise.
Oui, et en ce moment, Groupama vous offre les frais d'installation. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions, variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Allez, soyez les bienvenus, vous êtes sur RMC.
RMC.
C'est déjà demain.
L'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel.
Bonjour Anthony.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Allez, terminons ce week-end avec un petit footing. On va mettre des chaussures puisque la tech se met au service de nos pieds. Des chaussures qui vont maintenant nous permettre de marcher 2 fois plus vite que la normale, comme si on était sur un tapis roulant.
Ouais, c'est ça. Des chaussures robotisées qui permettent de marcher à 11 km/h. Donc là, c'est 2 à 3 fois plus rapide que la moyenne. Ouais, c'est un bon petit footing pour le coup.
C'est clair, 11 km/h, c'est pas mal. C'est votre allure moyenne, vous, quand vous courez.
Oui, bah ça dépend sur un footing tranquille, on va dire comme ça. Ouais, mais
en marche. Regardez-le, lui.
Ouais, pardon, je voulais pas.
Non, pas du tout.
Coureur du dimanche comme tout le monde. Mais sauf que là, vous le faites en marchant, c'est ça qui est incroyable. Alors ces chaussures s'appellent les Moonwalkers. Donc ça prend la forme en fait d'une petite plateforme qui se cale sous la chaussure avec des velcro équipés de petites roulettes qui vont accompagner et accélérer chaque pas qu'on réalise. Alors vous allez me dire, des chaussures avec des roulettes en dessous, ouais, en gros, ils ont inventé les patins à roulettes.
Bah,
les gars.
Oui.
Non, c'est pas la même chose. En fait, le mouvement n'est pas du tout le même. Il n'y a pas besoin d'apprentissage particulier. On ne patine pas. On marche bel et bien, mais plus vite. L'avant de la chaussure se plie pour pour suivre le mouvement des orteils comme une chaussure classique, et cette chaussure robotique va accompagner et booster chaque pas, un peu comme si on marchait sur un tapis roulant. Le deuxième aspect de ces chaussures, c'est qu'elles sont intelligentes, elles vont aussi s'adapter à leur environnement. Donc s'il y a beaucoup de monde autour de vous, sur un trottoir par exemple, vous n'allez pas pouvoir foncer comme un dingue au risque d'avoir un accident. Ça va ralentir, vous allez pouvoir bloquer pour monter ou pour descendre un escalier, la vitesse en descente est contrôlée. Donc voilà, peut-être que ce sera ça le futur des mobilités douces, puisqu'on est en train de supprimer les trottinettes. Bah, pourquoi pas avoir des chaussures qui permettent de marcher plus vite.
Et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres technologies un peu folles.
Ouais, dans les chaussures. Alors moi, les chaussures qui m'ont fait rêver, bah, vous aussi d'ailleurs, je pense, Mathieu, c'est les chaussures de Retour vers le futur. Les chaussures
auto-lassantes. Ah, mais oui, j'adorais.
Vous vous souvenez de ça?
Ouais.
Bah, ça existe. Elles ont été sorties pour de vrai il y a quelques années. Donc elles sont capables de se lasser toutes seules, de se serrer autour de la cheville en les effleurant simplement. Vous avez des petits micro-moteurs à l'intérieur de la semelle qui permettent de serrer le pied plus ou moins fort. Autre exemple, c'est une paire de chaussures pneumatiques dont on peut régler l'amorti à la demande depuis son smartphone. J'appuie sur un bouton et vous avez des mini-crampons qui vont sortir de sous la chaussure et créer une sorte de coussin d'air entre le pied et le sol. Ou encore des chaussures qui vous murmurent des conseils quand vous courez pour vous dire quand il faut tourner à droite ou à gauche lors d'un footing, ou qui vont même analyser la qualité de votre foulée par exemple.
Bon, et les gars, je comprends que ça vous plaise hein, ce côté gadget, mais concrètement, ça sert à rien tout ça, Anthony.
C'est un peu gadget, alors c'est plus ou moins gadget parce que pour la course à pied, on sait que c'est un sport qui génère quand même pas mal de blessures, donc si on peut analyser la foulée, ça peut être intéressant. Là où ça peut être très intéressant, ça va être par exemple pour la lutte contre la pénibilité au travail. On va pouvoir utiliser des chaussures intelligentes avec des semelles à l'intérieur qui vont analyser la posture, la position, la géolocalisation aussi. Donc soit pour des personnes, des travailleurs isolés par exemple, qui peuvent se blesser à un moment, qui peuvent tomber ou qui peuvent prendre des positions qui sont parfois très inconfortables, ou alors des personnes âgées également qui peuvent tomber dans la rue par exemple, eh bien on va pouvoir recueillir des informations, les envoyer vers des systèmes d'urgence par exemple, et donc pour le coup, au-delà du gadget, là ce sont quasiment des vies qui pourraient être sauvées quoi.
Bon, j'avoue là c'est plutôt intéressant. En tout cas, merci Anthony, c'est déjà demain, à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
7h26.
RMC, la matinale week-end.
Seroussi n'a pas tout compris.
Allez, c'est l'heure de sourire de l'actualité avec Vincent Seroussi.
Qui compatit avec tous ceux qui prennent la route en ce dimanche noir dans le sens des retours?
De plus en plus de conducteurs sont nerveux au volant. Selon une étude, 67% des automobilistes insultent les autres et 100% d'entre eux insultent Anne Hidalgo également. Sauf Daniel qui insulte Neymar, lui, comme ça directement. Voilà, on ne sait pas pourquoi.
Non, c'est fini.
T'es sur le périph, ouais, tu continues encore. Moi, je t'ai vu, t'étais sur le périph tranquillement et d'un coup, je vois Daniel dans sa voiture seul.
Neymar, c'est un guignol. Ce sont tous des guignols. Tous des guignols.
Ouais, ça tape un peu.
C'est vieux, hein.
C'est vieux, mais c'est encore d'actualité. C'est vrai que les gens s'embrouillent tellement que pour les JO, ils ont décidé de déplacer l'épreuve de boxe directement sur le périph à l'heure de pointe. Ils disent aussi que 32% des conducteurs collent la personne d'en face. Bon, ça reste toujours moins que le métro où 100% des gens frottent la personne d'en face. Hein.
Bon, c'est vrai qu'on est de plus en plus tendu au volant. Ça, c'est une certitude.
Tendu. Vous êtes juste tendu, Rémi. Enfin, je veux dire, tu roules en voiture, t'as un cycliste qui arrive à contresens, un piéton qui traverse au vert, une trottinette qui te dépasse par la droite, une voiture qui te fait une queue de poisson, un scooter qui colle ton rétro. Et pour peu que t'aies une femme, que t'aies ta femme à côté de toi qui te parle, t'es pas tendu, je veux dire, tu pètes un câble, excusez-moi. Alors bon, sans surprise, c'est Paris et Marseille hein, qui arrivent en tête dans le classement de ceux qui s'insultent le plus au volant. Bon, la seule différence, c'est qu'à Marseille, tu peux te faire insulter au volant de ta voiture, évidemment. Moi, à Marseille, il y a un automobiliste qui m'a gentiment laissé passer et il m'a dit...
Va niquer ta mère, le connard, t'es mort.
Voilà, on peut pas critiquer les Marseillais, c'est la politesse locale.
Tu m'étonnes, Vincent Seroussi, que vous retrouvez tous les jours, 14h50 dans Estelle Midi. En attendant, bon courage hein, si vous prenez la route aujourd'hui. Il va falloir rester calme.
Hein, être patient. Ouf. Rester à l'écoute des RMC.
Ouais, essayez de pas trop s'insulter. Allez, la météo, les infos arrivent.
RMC, 6h30, 9h30.
La matinale week-end. C'était cette semaine sur RMC. Marine Le Pen était l'invitée du Face à Face et vous.
Événement ce matin avec ce nouveau rendez-vous, le Face à Face et vous. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Le club français jouait en Coupe d'Europe de foot.
C'est terminé. Le Paris Saint-Germain est éliminé aux portes de la finale. Mais c'est bel et bien terminé. L'Olympique de Marseille n'ira pas en finale. Le défi était trop grand.
Les Grandes Gueules et le Super Moscato Show étaient en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique.
On est en direct tout de suite avec la star, la méga star Soprano.
Il est là
dans le Super Moscato Show. Tu vas chanter pour célébrer l'arrivée de la flamme olympique. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Ah, c'est incroyable, le Belém, il arrive sur le Vieux-Port. Je termine les festivités de cette arrivée devant tout mon pays, comme on dit. C'est magnifique.
150 000 personnes, Soprano.
C'est la Madonna de la Canebière.
RMC, bien plus qu'une radio.
Et Guy Broche, attention, les orages arrivent.
Oui, déjà par le sud-ouest, on en a du côté de la Gironde, également remontant vers la région Poitou-Charentes, et puis quelques averses orageuses, alors plus éparses, c'est vrai, vont remonter dans la matinée du côté de la Bretagne et la Normandie. Sur l'est, entre le Grand Est, l'Île-de-France, en allant vers la Méditerranée, c'est encore du beau soleil, on en profite parce que dans la journée, ces averses orageuses vont se décaler sur les régions centrales, entre la Normandie, l'Île-de-France, le Massif central, en allant vers les Pyrénées, avec localement de la grêle possible et de fortes pluies attendues entre la Basse-Normandie et l'Île-de-France. Sur l'ouest, entre la Bretagne et l'Aquitaine, on va retrouver un ciel de traîne dans l'après-midi, entre nuages éclaircis, encore quelques gouttes. Et puis on a également des averses orageuses sur les reliefs du Jura et des Alpes. Sur les frontières du Nord et près de la Méditerranée, ça restera un temps sec et ensoleillé comme en Corse, le tout sous des températures qui sont en baisse du coup, sauf sur le Nord-Est. On reste autour de 26-27 degrés. Ailleurs, entre 19 et 24 degrés. Il y a des endroits où on perd même 10 degrés par rapport à la veille.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences en France et en Europe.
Nous sommes le dimanche 12 mai. Excellent réveil.
Vous êtes sur RMC, il est 7h30.
RMC, la matinale week-end.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Clara Gabillet, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. La Suisse, grande gagnante de l'Eurovision. La France termine quatrième du concours, très agitée cette année par la situation dans la bande de Gaza. Plutôt tente ou mobilhome, une pétition milite pour la sauvegarde du camping traditionnel. Et puis l'OM, de retour en Ligue 1 ce soir face à Lorient, après son élimination en Ligue Europa.
Et à la fin, c'est la Suisse qui gagne.
L'artiste Nemo a décroché la première place à l'Eurovision grâce à son titre The Code. La France, avec Slimane, termine quatrième, juste devant Israël. Une soirée mouvementée, très politique, marquée par les tensions au Proche-Orient, Marlene Ottmann.
Avec beaucoup d'énergie, sa veste à plumes rouges et sa jupe satinée, le Suisse Nemo devient le premier artiste non-binaire à remporter l'Eurovision.
Thank you so much.
J'aimerais dire que j'espère que cette compétition pourra continuer à encourager la paix et la dignité pour chacun.
Il casse son trophée en plaisante ensuite en conférence de presse et en profite pour envoyer un message.
J'ai cassé les codes, j'ai cassé le trophée, mais le trophée ça se répare. Peut-être qu'il faudrait réparer aussi l'Eurovision.
Car si Nemo croule sous les applaudissements, le public a été moins tendre avec sa concurrente israélienne. La chanteuse Eden Golan, puis le directeur du concours, tous hués. Mais Israël termine à la cinquième place grâce au vote des téléspectateurs. Israël, juste derrière la France, qui termine quatrième. Slimane a brillé lors de sa prestation. Mon amour a particulièrement séduit le jury avec un final a cappella.
Situation, compétition marquée donc par la situation au Proche-Orient. Un cessez-le-feu à Gaza est possible si le Hamas libère les otages, affirme Joe Biden, le président américain, qui menace de ne plus fournir d'armes à Israël si le pays continue son opération à Rafah. Mais l'État hébreu pourrait frapper encore plus fort avec une opération terrestre. L'armée a ordonné l'évacuation de la ville du sud de la bande de Gaza. Pour le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, Israël marche sur des œufs avec cette opération.
Netanyahou, il est en quelque sorte coincé entre une opinion publique israélienne qui demande d'abord la libération des otages, une extrême droite israélienne qui, elle, est jusqu'au boutiste et qui ne pense qu'à une seule chose, c'est l'élimination complète du Hamas. Il faut trouver une forme de compromis et puis ne pas se mettre à dos toutes les opinions publiques internationales. Le risque, c'est des pertes civiles importantes. Or, ces pertes civiles posent un véritable problème militaire et politique avec des critiques des opinions publiques internationales, y compris aux États-Unis.
Et ce matin, le Hamas a annoncé la mort de deux médecins au centre de la bande de Gaza, tués dans des frappes israéliennes. L'état de santé du policier qui s'est fait tirer dessus dans un commissariat de Paris est toujours préoccupant. Il est toujours hospitalisé comme l'homme auteur du tir. Ce trentenaire venait d'être interpellé pour une violente agression dans le commissariat du 13e arrondissement. Il avait réussi à voler l'arme d'un des deux policiers pour leur tirer dessus. Aucune personne n'a pu être entendue pour le moment.
RMC 7h33. Prudence et surtout patience. vigilance si vous prenez la route aujourd'hui.
C'est rouge sur la route et même noir dans le nord-ouest selon Bison Futé. Un pont, même un viaduc de 5 jours que vous avez peut-être passé au camping. Des campings où les tentes se font de plus en plus rares, remplacées de plus en plus par des mobilhomes plus rentables pour les propriétaires d'emplacements. Face à ça, des gérants se sont réunis dans un collectif Sauvons le vrai camping pour lutter contre cette disparition au nom de vrais passionnés qui continuent de choisir le camping traditionnel, comme en Côte d'Or, où vous vous êtes rendu à Milnafchin.
L'esprit camping, Aurore connaît bien, cela fait 10 ans qu'elle part en toile de tente en famille.
On aime bien parce qu'on ne fait rien, pas de ménage. C'est vraiment maillot de bain toute la journée, feu, barbecue, piscine, et on adore.
Des vacances sans chichi, sans contraintes, même si vivre sous une tente, ce n'est pas toujours facile, surtout avec des enfants.
C'est le bazar. Il y a beaucoup de sable partout. L'année dernière, le matelas s'est dégonflé, il a fallu en retourner en chercher un, et on s'en fout.
Alors pour elle comme pour sa fille Maïwenn, pas question d'échanger leur tente contre un mobilhome.
Je trouve que c'est plus convivial.
On mange dehors. Ouais, on fait ce qu'on peut. Faut qu'on s'adapte avec les autres parce qu'on n'a plus chacun notre chambre. Moi, j'aime bien.
En mobilhome, on arrive, ça fait un petit appart, quoi. C'est pas pareil.
Mais avec les géants du camping, ce mode de voyage se perd avec le temps. Ce que déplore Grégory Giroux, gérant d'un camping et signataire de la pétition.
Aujourd'hui, une grosse structure de 1000 ou 2000 emplacements, ben, c'est que du béton ou des mobilhomes. Des gros parcs aquatiques qui consomment des quantités d'eau faramineuses. Faudrait vraiment avoir une grosse réflexion sur qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un camping.
Il demande donc une modification de la législation afin de préserver les emplacements nus destinés aux toiles de tente.
Ils se trompent complètement, ces gérants de camping. Voilà ce que leur répond le président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, Nicolas Daillot, qui est notre invité à 7h40. Ne pas opposer mobilhome et emplacement nu. Vous êtes plutôt tente ou mobilhome? Racontez-nous au 32-16 ce matin.
La Ligue 1, multiplex ce soir à 21h. L'Olympique de Marseille reçoit Lorient au Vélodrome. 3 jours après la claque reçue à l'Atalanta Bergame en demi-finale de Ligue Europa, l'OM doit se relever et s'accrocher en championnat pour espérer se qualifier en Coupe d'Europe la saison prochaine, Aurélien Tirsin.
L'OM est ce matin 9e de Ligue 1 et désormais sûr de ne pas participer à la Ligue des Champions la saison prochaine, puisque le club ne gagnera pas l'Europa League. Et c'est un vrai coup dur pour le défenseur Chancel Bemba.
On a travaillé pour partir à la finale, mais Dieu l'a décidé, on n'a pas parti. On ne va pas baisser les poings. Ça fait mal, mais on ne va pas rester là.
Le dernier espoir pour un ticket européen est de remonter à la 6e place du championnat. L'OM compte 5 points de retard sur Lens avec un match en plus à jouer. Le coach Jean-Louis Gasset y croit encore.
Je peux vous garantir qu'on fait le maximum. Mais il y a des choses qu'on n'arrive pas. Mais la certitude, c'est que demain, on finit comme il faut. Au Vélodrome, on finit comme il faut. On le leur doit.
Marseille le doit à ses supporters et l'équipe y est souvent arrivée cette saison au Vélodrome avec une seule petite défaite à domicile. C'était contre le champion de France, le Paris Saint-Germain.
Et ce soir, parmi les autres rencontres, il y aura PSG-Toulouse. Ce sera la dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes et de Keylor Navas, le gardien qui a aussi annoncé son départ du club. Du foot féminin, en division 1, les joueuses du PSG se sont imposées au tir au but lors de la première demi-finale du championnat face au Paris FC avec une nouveauté, la sonorisation des arbitres. Pour la première fois dans une rencontre officielle, le public et les téléspectateurs ont pu entendre l'arbitre en direct lors d'une prise de décision, Anthony Reich.
Nous sommes à la 48e minute de jeu. Grâce Guillereau croit avoir égalisé pour le Paris Saint-Germain. Le but est dans un premier temps validé, mais l'assistant vidéo signale une position de hors-jeu à Audrey Gerbel. L'arbitre central prend alors la parole.
La coupe numéro 8 est en position de hors-jeu. Décision finale, but refusé.
Pourtant, en première période, l'ouverture du score du Paris FC était entachée d'un hors-jeu non signalé par la vidéo, ce qui a provoqué la colère de l'entraîneur parisien Jocelyn Precheur.
C'est le but, c'est de nous faire tomber à chaque fois, donc on le sait. Il faut accompagner ces arbitres parce qu'ils ne sont pas au niveau. Leur tâche aujourd'hui devient vraiment complexe. C'est bien que les choses soient mises en place, ça il ne faut pas le nier.
Nouvelle expérimentation aujourd'hui à 17h pour l'autre demi-finale entre Lyon et le Stade de Reims.
Anthony Reich pour RMC, 1 600 000 entrées en moins de 2 semaines et pourtant... Aucune marque ne veut habiller les comédiens du film Un petit truc en plus pour le Festival de Cannes. L'amertume du réalisateur et comédien Artus, alors que les comédiens porteurs de handicap mental monteront bien les marches à Cannes. Les spectateurs, en tout cas eux, sont conquis. Un succès qui participe à changer les mentalités, Lucas Laubert.
À la sortie de la salle de cinéma, les sourires sont sur tous les visages. Le film met en scène un fils et son père en cavale, contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes handicapés. Les spectateurs ont adoré.
Je pense que c'est un film très sincère et qui peut aider les gens qui se sentent un peu moins à l'aise pourraient le devenir.
On a envie d'aider des assos qui aident ces personnes. Je pense que je vais faire une contribution.
Une semaine que le film est sorti et les associations en constatent déjà les effets positifs. C'est le cas de Culture Relax qui favorise l'accès à la culture des personnes handicapées. Amar Nafa, son directeur général.
Plus d'appels, des sollicitations aussi par courriel, mais on a vu qu'il y avait quand même un pic dans les demandes. Tout ce qui met en lumière les réalités vécues par les personnes en situation de handicap va dans la bonne direction.
Un film qui sensibilise, démystifie les idées reçues sur le handicap, mais ça ne suffit pas pour Pascale Ribbe, présidente de l'association APF France Handicap.
L'impact reste limité, il en faudrait beaucoup, je pense, de films pour pouvoir changer le regard durablement dans le temps.
Et preuve que la méfiance est encore forte, selon une enquête de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en 2020. 64% des Français estimaient que le handicap est un obstacle au bonheur.
Et Luc Allobert pour RMC. Vous
avec
l'avez vu
ce film excellentissime. J'ai vu beaucoup d'extraits. Alors malheureusement, je n'ai pas pu voir l'intégralité, mais on en parlait déjà le week-end dernier de ce succès avec le directeur de l'inclusion chez Handicap International. Il disait que c'est formidable. Formidable que ces films populaires aient du succès. On comprend difficilement d'ailleurs qu'à Cannes, ça rechigne un peu à accueillir comme il se doit les comédiens de ce film. Mais en tout cas, c'est formidable pour... l'impact sur la société et l'acceptation des différences, finalement. Merci beaucoup, Clara Gabillet. 7h39 minutes.
À suivre dans la matinale week-end.
On pense à vous si vous prenez la route. Racontez-nous d'ailleurs s'il y a déjà des difficultés. Ça coince en centre-Bretagne, nous disait tout à l'heure Emmanuel, déjà tôt sur la route pour éviter les bouchons. Il y a aussi la question des carburants. Vous l'avez entendu, de plus en plus cher sur les autoroutes et ailleurs. Est-ce qu'il faut plafonner les prix? On vous pose la question ce matin au 32-16. Vous continuez de réagir. C'est 40 millions d'automobilistes qu'il propose. Pierre Chasseret sera à 8h10, notre témoin RMC.
À 7h50, c'est Racontez-nous avec vous, Nicolas Poincaré, direction Cannes ce matin.
Le 77e festival ouvre ses portes mardi.
Avant cela, il faut sauver le vrai camping. Un collectif s'inquiète de la disparition des emplacements nus au profit des mobilhomes. Le président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, Nicolas Daillot, va leur répondre sur RMC dans 2 minutes.
RMC,
la matinale week-end.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Lion de l'Atlas, Pandarou, Panthère des Neiges. Le parc animalier d'Auvergne, une réserve incroyable dédiée à la conservation de 60 espèces menacées. Des activités auprès des animaux à la réalité virtuelle en passant par des enclos d'immersion, chaque instant est magique. Le parc animalier d'Auvergne, lauréat des trophées PME-RMC. Plus d'infos sur parcanimalierdauvergne.fr. RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bienvenue, bon dimanche à l'écoute d'RMC, il est 7h41.
RMC.
L'invité du jour.
Et l'invité du jour, c'est vous, Nicolas Daillot, président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. On va faire le bilan avec vous de ce premier long week-end de l'Ascension qui donne toujours un peu une idée de ce que sera l'été. D'abord, un mot sur ce collectif de gérants de camping qui veulent sauver le vrai camping selon eux. Des rassemblements ont lieu dans leur camping ce week-end à l'appel de ce collectif qui s'inquiète donc de la disparition des emplacements nus, ceux pour les tentes, au profit des mobilhomes. Ils déplorent d'avoir de moins en moins de place pour planter la tente aussi. Ça, ce sont les adhérents de ce collectif, ceux qui viennent avec leur tente, ils vont jusqu'à dire que l'esprit du camping est en train de disparaître en France. Une pétition a été adressée à la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire. Qu'est-ce que vous leur répondez, Nicolas Daillot ?
Ah bah, je leur réponds déjà que leur démarche est attachante, puisque ça démontre qu'ils sont attachés à l'emplacement nu, mais ça tombe bien, puisque tous les campings de France sont attachés à l'emplacement nu. Par contre, il nous semble que leur constat n'est pas véritablement le reflet de la réalité, d'une part, et puis d'autre part, c'est ça qui est le plus gênant, c'est que les solutions qu'ils proposent sont surtout mauvaises et pourraient être très graves pour l'avenir du camping en France.
Ils veulent une modification de la loi, carrément. Un établissement qui n'a plus d'emplacement nu ne pourrait plus s'appeler camping.
C'est ça, exactement. Alors, ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que ils disent qu'il y a une disparition inéluctable des emplacements nus et que cette baisse du nombre d'emplacements, qui est finalement une tendance depuis 25 ans, va se poursuivre sans jamais s'arrêter jusqu'à la disparition totale des emplacements nus. Ça n'est pas vrai. En fait, c'est nier le fait que la profession a connu trois périodes. La période où il n'y avait que des emplacements nus, il y a 40 ans. La période où on a commencé à installer des mobilhomes et des chalets, il y a 25 ans. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une situation de stabilité où d'accord. Les nouveaux mobilhomes qui sortent des usines remplacent ceux qui étaient déjà installés il y a 20 ans.
Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il y a de moins en moins d'emplacements nus, hein. En 2000, 940 000 emplacements et 24 ans plus tard aujourd'hui, 860 000.
Oui, mais faut pas pointer le mobilhome parce que on a perdu plus de 2000 campings en 25 ans. Ces 2000 campings représentaient 80 000 emplacements qui étaient quasiment que des emplacements nus. Donc la première cause de disparition des emplacements, c'est la fermeture des campings municipaux et des tout petits campings d'une part. Et puis d'autre part, le mobilhome et l'emplacement nu sont complémentaires dans les campings. Il faut pas les opposer. En réalité, les gens qui viennent avec une tente profitent des équipements modernes, à commencer par les sanitaires, qui sont financés grâce à l'installation des mobilhomes. Donc en réalité, la majorité même des campings français ont à la fois des mobilhomes et des emplacements nus. Mmh. Et les deux, finalement, se complémentent pour pouvoir avoir une offre attractive.
Et cohabite, c'est l'esprit du camping. Je n'ose même pas donner la référence, mais un emplacement entre deux allées. Enfin bon, bref, vous aurez compris, Franck Dubosc, etc. Nicolas Daillot, je voulais vous faire écouter Esther. Elle a 22 ans, elle fait du camping depuis ses 3 ans. Et pour elle, c'est forcément en toile de tente.
C'est vraiment l'aspect tout le temps dehors, c'est vraiment sympa. Et puis il y a l'aspect convivial aussi, on se fait des nouveaux copains dans le camping, on parle plus aux voisins, on a toujours besoin d'un truc chez le voisin, on va leur parler, on va jouer aux cartes avec eux. Donc c'est forcément plus de rencontres que le mobilhome. C'est chill, c'est que du bonheur.
Il y a des contraintes.
Il faut aimer manger froid. Il faut un grand coffre, parce qu'il faut beaucoup de matériel. Si on veut avoir un peu de confort, il faut le réchaud, il faut la chaise ou le truc comme ça. Sinon en vrai, il n'y a pas trop. Beaucoup de contraintes. Moi, ça me manque. Hein. Ça fait un an et demi que j'en ai pas fait et là ça manque.
Mais bon, c'est le début de la saison, donc on imagine qu'Esther va aller au camping d'ici la fin de l'été, Nicolas Daillot. Mais je voulais vous la faire entendre parce qu'au-delà des considérations économiques qu'on évoquait, il y a aussi cet esprit du camping. Est-ce que finalement, quand on est en mobilhome, on vient réellement camper ?
Bien sûr, mais en réalité, il n'y a pas une forme de camping, il y a des formes de camping. La forme qu'évoque votre auditrice est une forme qui est très vivace. Aujourd'hui, 45% de la fréquentation des campings français est justement produite par les gens qui adorent planter la tente, venir avec un van, un camping-car ou une caravane. Et cette année, d'ailleurs, les réservations sont plus dynamiques sur les tentes, les caravanes, les camping-cars que sur la location des mobilhomes, même si la location des mobilhomes est majoritaire. Mais si les campings de France ont installé des mobilhomes, des chalets, des roulottes, des cabanes depuis 25 ans, ça n'est pas pour se faire plaisir, en réalité. Ils l'ont fait parce que c'est plébiscité par les Français et les étrangers, mais surtout par les Français, et notamment les familles populaires et des classes moyennes qui recherchent un bon rapport qualité-prix et qui cherchent surtout de plus en plus de confort dans l'hébergement. Donc en réalité, les gens qui viennent avec une tente et les familles qui viennent avec un mobilhome cohabitent parfaitement dans un camping. Tout ça fonctionne parfaitement bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la recette est un succès, dans la mesure où on est passé de 20 millions de campeurs il y a 15 ans à 27 millions aujourd'hui. Donc cette formule est bonne, et si elle fonctionne, c'est justement parce que les campings ont beaucoup de liberté et de souplesse dans l'adaptation de leur offre. On rajoute des mobilhomes ou des chalets, on les enlève parfois si on en a mis un peu trop. En réalité, c'est cette souplesse d'exploitation qui est la recette du succès de la profession.
Donc les petits campings, ceux qu'on appelle les petits avec peu d'emplacements, qui ne proposent pas toujours d'ailleurs des mobilhomes, ne sont pas en danger de mort.
Alors justement, ce sont les campings municipaux et les tout petits campings de moins de 50-60 emplacements qui disparaissent depuis une vingtaine d'années. On en perd quand même entre 70 et 100 par an ces années-ci, parce que justement, ils ont un niveau de chiffre d'affaires trop élevé, ils n'arrivent pas à rentabiliser leur exploitation et ils finissent par fermer. En réalité, le succès, c'est justement d'avoir un peu d'emplacement et un peu de mobilhome pour arriver à équilibrer économiquement et financièrement l'établissement et surtout à satisfaire les attentes des campeurs. Et les campeurs qui viennent en mobilhome ou les campeurs qui viennent en emplacement nu, puisque ce sont dans tous les cas des campeurs. Et d'ailleurs, la définition de la loi est très claire. Les tentes, les caravanes, les mobilhomes, tout ça, c'est du camping.
Nicolas Daillot, on a vu ces 5 jours du week-end, le premier long week-end de la saison, l'Ascension, en plus avec du soleil partout en France. C'est vraiment le lancement de la saison. Le château de Chambord, je vous donne juste l'exemple. Plus de 11 000 visiteurs en ce jeudi de l'Ascension. C'était 9 000 maximum par jour en moyenne au moment de l'Ascension l'année dernière. Est-ce que ça s'est vérifié aussi dans votre secteur, les campings, une fréquentation record ?
Oui, tout à fait. C'est une très très bonne nouvelle pour la saison. Après un mois d'avril qui était décevant, parce qu'on a perdu à peu près 20% de fréquentation par rapport à l'année dernière. Cette année, le mois de mai est très bon, et notamment le week-end de l'Ascension. Alors évidemment, le calendrier nous a favorisés, mais cette fenêtre météo magnifique fait que le week-end de l'Ascension est plus fort que d'habitude, alors que c'est traditionnellement évidemment déjà le meilleur week-end du printemps. Là, c'est un super grand week-end.
Vous avez déjà des retours chiffrés?
Chiffré, c'est un peu tôt, mais bon, grosso modo, le mois de mai, c'est à peu près 7% de la fréquentation annuelle, donc ça représente à peu près 10 millions de nuitées. On peut considérer que le week-end de l'Ascension va représenter 40% de ces 10 millions de nuitées. Donc, voyez, on a une petite idée. Il y a 1 million, 1 million 2, 1 million 3 de Français qui ont fait du camping au cours de ce week-end, ce qui est un très, très bon week-end.
Et, oui.
Et surtout, ça va donner envie à ceux qui ont passé un si bon moment au cours du printemps de réserver, à n'en pas douter, pendant l'été dans les campings français.
Alors que, avril, les vacances de Pâques avaient été un peu décevantes, hein?
Alors d'une part, contrairement à ce week-end-ci, la météo n'était pas très bonne sur une partie importante du pays. Et puis d'autre part, pour le coup, le calendrier n'était pas bien positionné puisque les vacances notamment étaient un peu trop tôt pour les vacances des Parisiens en particulier. Et puis le week-end de Pâques était sur le mois de mars et non pas sur le mois d'avril. Mmh. Donc là, le calendrier était contre nous. En réalité, le mois d'avril a été l'opposé du mois de mai et de ce week-end de l'Ascension.
J'ai une toute dernière question, Nicolas Daillot. Ces Français qui se logent au camping faute de pouvoir payer un loyer, de plus en plus nombreux, même si là c'est difficile à chiffrer aussi. Est-ce que c'est une réalité que vous constatez ?
Alors, vous l'avez dit, on n'a aucun chiffre. Hein. Donc, on entend des chiffres parfois un petit peu farfelus, me semble-t-il. On ne nie pas le phénomène. Il y a effectivement, du fait des difficultés de logement dans notre pays, des personnes qui préfèrent loger en camping, notamment dans des hébergements locatifs parce qu'ils sont confortables. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est vraiment une toute petite partie. Certains parlent de quelques dizaines de milliers de personnes. Je rappelle qu'on accueille 27 millions de personnes par an. Donc, c'est vraiment en pourcentage un tout petit volume.
Oui.
Et puis, il ne faut pas oublier non plus que dès lors qu'on ne peut pas créer de nouveaux campings aujourd'hui, qu'il y a même une disparition des campings, il faut que les lits touristiques français servent à accueillir les touristes, parce que sinon on va dégrader la fréquentation touristique du pays. Donc les campings ont une vocation de loisirs, de tourisme, pas une vocation d'hébergement. Et puis je rappelle qu'il est interdit d'être domicilié dans un camping. Donc il y a parfois quelques petits accommodements qui sont constatés de ci, de là.
Oui.
Mais encore une fois, ça n'est pas la vocation du camping que de faire de l'hébergement permanent.
Et il est illégal d'y installer sa résidence principale, d'y avoir son adresse permanente. Merci beaucoup Nicolas Daillot, président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Bon début de saison à vous. Il est 8h10.
Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Egoué, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à demain.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais avancés. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, mais merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Go 7h52, excellent réveil à l'écoute des RMC, ça danse en régie. Oui, oui, il y en a au moins une ici qui est fan.
Qui connaît bien et qui est fan, mais oui.
C'est Charline qui réalise la matinale week-end aujourd'hui. C'est vrai qu'elle a encore affolé les compteurs, Taylor Swift. Alors quel bilan pour les concerts à Paris? On va voir ça dans le bonus RMC dans 2 minutes.
Mais d'abord,
racontez-nous.
C'est l'heure de retrouver Nicolas Poincaré.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Direction Cannes avec vous ce matin, puisque la quinzaine du festival, 77e édition, va donc s'ouvrir mardi.
Et le film le plus attendu cette année est celui de Francis Ford Coppola. Le réalisateur américain avait reçu la Palme d'Or en 1979 à Cannes pour Apocalypse Now, un film mythique sur la guerre du Vietnam. Et il revient donc 45 ans plus tard, à 85 ans, pour présenter ce qu'il appelle le film de sa vie, auquel il pense depuis les années 80. C'est un film de science-fiction qui s'appelle Megalopolis. Coppola a investi une partie de sa fortune personnelle dans ce projet fou et ce sera donc un des événements du festival. Autre film à grand spectacle, celui de George Miller qui présentera hors compétition Furiosa, le dernier épisode de la série Mad Max. Et puis le cinéma américain sera honoré avec des palmes d'honneur qui seront remises à Meryl Streep et à George Lucas, le créateur de Star Wars. La France sera représentée notamment par Jacques Audiard qui présente une comédie musicale en espagnol. Omar Sy fait partie du jury présidé par Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, autrement dit la réalisatrice d'un film qui a été un très très grand succès commercial cette année, ce qui n'est pas toujours le cas à Cannes.
Oui, on peut le dire.
Ouais, enfin, on parlera sûrement beaucoup de la projection d'un film iranien, parce que son réalisateur, Mohammad Rasoulov, vient d'être condamné en Iran à 5 ans de prison, à la confiscation de tous ses biens et à des coups de fouet. Il a été condamné pour avoir dénoncé la corruption. Il ne sera donc pas présent à Cannes.
Et puis Nicolas, le festival pourrait aussi être marqué par un nouveau scandale dans la mouvance MeToo.
Alors oui, peut-être, en tout cas c'est ce qui se dit. Une rumeur court selon laquelle une liste d'acteurs et de réalisateurs français pourrait être publiée pendant la quinzaine. On ne sait pas d'où vient cette rumeur, mais elle est visiblement prise très au sérieux par la présidente du festival, Iris Knobloch. Elle a expliqué jeudi qu'elle suivait la situation de près et que si une personnalité présente à Cannes devait être mise en cause pour des violences sexuelles, eh bien l'organisation réagirait au cas par cas. Le Figaro raconte que les organisateurs du Festival de Cannes se sont adjoints les services d'une agence spécialisée dans la gestion de crise et que les scénarios sont prêts. En cas d'accusation, un réalisateur, un acteur ou un producteur pourrait être prié de ne pas monter les marches. Un film pourrait même être exclu de la compétition. En tout cas, nous dit-on, les décisions seraient prises très vite. Ce qui est sûr, c'est qu'un court-métrage de Judith Goldreich sur les violences sexuelles dans le cinéma sera bien présenté dès mercredi et que la présidente du festival veut lui donner un maximum de visibilité.
Merci Nicolas, racontez-nous, à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
8h05.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Votre idole, Peggy Taylor Swift, te va donc quitter Paris. Pas la peine de se lancer non plus, Peggy.
Excusez-moi, c'est pour l'entendre un petit peu plus. Ben oui, 4e concert à Paris, à la Défense. Paris, la Défense Arena, c'est ce soir. À guichet fermé, 4 dates. Taylor Swift a enflammé le public parisien, 45 000 spectateurs chaque soir pour un show de 3h15 non-stop, s'il vous plaît, 45 chansons. Son premier album est sorti il y a déjà 18 ans et la star planétaire de la pop de 34 ans compte 11 albums studio. Elle n'a pas déçu son public de Swifties. Vous savez, c'est le nom qu'on donne aux fans. Et des fans qui sont venus avec des bracelets de perles. Vous savez pourquoi ?
Non.
Parce qu'en fait, elles font elles-mêmes des bracelets de perles. Elles se les échangent. Genre, on est copines, tout ça. Vous voyez ?
Ah oui, c'est toute une commune.
Exactement, communauté. C'est toute une communauté. 70% de Français, 30% d'étrangers sont venus voir Taylor Swift à Paris. The Eras Tour, qui a débuté le 17 mars 2023, reprend l'ensemble de son parcours. Et petite surprise pour les Français, puisque Taylor Swift a interprété le titre « Paris ». Vous en doutez, un show à l'américaine, ultra millimétré, pas moins d'une dizaine de tenues différentes sur scène, pas deux, pas trois, hein, non, une dizaine. Souvent des tenues pailletées, parce que ça aussi, c'est la touche Taylor Swift. Une équipe de 200 personnes autour d'elle, une scénographie époustouflante avec des chorégraphies et plein de danseurs. The Eras Tour, c'est 151 concerts dans 20 pays à travers le monde. Et écoutez bien, cette tournée devrait générer plus de 2 milliards de dollars de recettes, déjà considérée comme la tournée la plus lucrative de l'histoire. Et si ça s'arrêtait à la tournée? Mais non, évidemment, Taylor Swift est la première artiste milliardaire avec ses chansons. Son dernier album, qui est sorti il y a quelques jours, s'est vendu à plus d'1,4 million d'exemplaires dans le monde, déjà. Sur Spotify, plus d'1 milliard de streams en 5 jours. Donc c'est vous dire, c'est un succès planétaire. 45 000 spectateurs auront le bonheur d'assister ce soir à ce spectacle exceptionnel à Paris La Défense Arena. Fan ou pas, je pense aux parents, hein, qui accompagnent les enfants. Et puis rendez-vous les 2 et 3 juin prochains au Groupama Stadium de Lyon. On ne retient plus Charline à la technique aujourd'hui.
Bah voilà, c'est ce que vous disiez, fan ou pas. Voilà, il y a Team Charline et Team Peggy. On ne peut pas aimer tout le monde. Mais il y en a pour tous les goûts le matin sur RMC. Surtout quand on a beaucoup de route, il va falloir mettre beaucoup de musique pour rester calme. Vos infos de 8h arrivent.
RMC.
La matinale week-end.
Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC.
Dès 9h, les grandes gueules du sport en direct du Mans pour le Grand Prix de France Moto. 12h15, cyclisme, la 9e étape du Tour d'Italie. 14h, retour à la MotoGP pour le départ du Grand Prix. Et à 21h05, rugby, le choc de la 23e journée de Top 14, Stade Toulousain, Stade Français Paris.
RMC, numéro 1 sur le sport.
Bienvenue à Paris.
Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos jeux à zéro médaille d'or.
L'esprit Coubertin, une comédie réjouissante et assumée.
Il y a eu un SMS dans le public, ça fait tut-tut. Moi j'entends tut-tut. Je pleure, je crois.
Avec Benjamin Voisin et Emmanuel Berco.
L'esprit Coubertin, actuellement au cinéma.
Peggy, attention, c'est un temps qui donne envie de rentrer.
Et oui, parce que les orages arrivent, et notamment par le sud-ouest, on en a déjà, hein, du côté de la Gironde, en montant vers Poitou-Charentes, et puis ces orages vont remonter dans la matinée. Alors, ils seront plus localisés avec des averses plus éparses, hein, du côté de la Bretagne et de la Normandie, tout ça entre deux éclaircies, évidemment. Ça reste ensoleillé pour l'instant ce matin à l'est, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est, en allant vers la Méditerranée, mais ça va se gâter, puisque les orages vont se décaler dans l'après-midi entre la Normandie, l'Île-de-France, le Massif central en allant vers les Pyrénées. Localement, on peut avoir de la grêle, pas mal de pluie entre la Basse-Normandie et l'Île-de-France. Et de part et d'autre, on aura un temps plus calme avec quelques averses orageuses sur les reliefs du Jura et des Alpes. Quelques averses, mais plus d'orages sur l'ouest du pays entre deux éclaircies entre la Bretagne et l'Aquitaine. Et puis, ça restera donc plus ensoleillé sur les frontières du Nord et la Méditerranée. Côté température, elles sont en baisse.